Okapi.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Tribune de la Presse du vendredi 6 mars 2009, au cours de laquelle nous ferons un retour sur quelques grands moments censés d'actualité de cette semaine. Trois thèmes sont au menu de ce soir. Affaire Jean-Pierre Bemba, la Cour pénale internationale a décidé mercredi dernier du report de l'audience de confirmation de charge contre lui au mois de juin prochain. Dans notre second thème, nous parlerons de la rencontre entre les présidents Kabila et Museveni mercredi dernier à la frontière entre l'Ouganda et la RDC. Et dans notre troisième et dernier thème, nous aborderons la présence des militaires angolais signalés depuis près d'une semaine dans deux villages du Bas-Congo, Sabaina et Kouzi, dans les territoires de Mbanzangungu. Nous abordons ces trois sujets avec trois confrères, Marcel Ngoï, éditeur du quotidien La Prospérité, paraissant à Kinshasa, Dieudonné Mbuyi Katamba, rédacteur en chef du quotidien La Tempête des Tropiques, paraissant également ici à Kinshasa, et Jean-Baptiste Badera, rédacteur en chef de radio Maïndéléo de Bukavu au Sud-Kivu et correspondant de la radio-télévision Digital Congo à Bukavu. Il intervient au téléphone depuis cette ville. Comme chaque semaine, commençons cette émission par notre revue de presse de la semaine, l'affaire Jean-Pierre Bemba, la rencontre Kabila Museveni, ainsi que la présence des militaires angolais dans deux villages du Bas-Congo. Tels sont les points que notre consoeur Kéline Kouté aborde dans la revue de presse de quelques journaux quinois.
Commençons ce journal de journaux par la CPI qui vient de reporter la date de la décision finale sur la confirmation des charges contre le sénateur Jean-Pierre Bemba à la fin du mois de juin prochain. La tempête des tropiques note que la séance de confirmation des charges contre le sénateur congolais vient d'être à nouveau reportée au 24 juin 2009 alors qu'elle était attendue fin mars. Le procureur Moreno Ocampo devra indiquer la tempête des tropiques disqualifier les faits pour ne retenir le cas échéant que la responsabilité en tant que chef militaire. Citant le secrétaire général du Mouvement des Libérations du Congo, MLC, la référence plus explique, la Cour n'a pu établir la responsabilité personnelle de Jean-Pierre Bemba dans les crimes contre l'humanité et crimes de guerre en République centrafricaine. Le FAR ajoute pour sa part que pour le MLC, Jean-Pierre Bemba est un prisonnier politique. Autre actualité de la semaine, la présence des militaires angolais dans deux villages du territoire de Mbanzangungu dans la province du Bas-Congo. Comme ce fut le cas de Kaemba, l'armée angolaise occupe deux villages dans le Bas-Congo, titre ainsi la référence plus. Il s'agit précis, ce journal, des villages de Sabaina et Kouzi, situés à plus de 200 km à l'est de Matadi. Pour sa part, la tempête des tropiques indique qu'une semaine après cette intolérable provocation, Kinshasa tarde toujours à réagir. À en croire ce confrère, le gouvernement central a décidé de laisser l'affaire aux mains du gouvernement du Bas-Congo. Bouclant cette revue de presse par la rencontre Joseph Kabila et Yoweri Museveni à Kasindi, à 75 km de Beni au nord Kivu. Le potentiel qui consacre sa principale manchette à cette rencontre rapporte que les deux chefs d'État ont, à l'issue de l'évaluation des opérations militaires conjointes contre la LRA, décidé de l'application stricte des accords de Gourdoto en Tanzanie. La RDC et l'Ouganda décident de la réouverture de leurs ambassades, informe pour sa part l'observateur en rendant compte également de la rencontre Kabila Museveni. Retombée de la rencontre Joseph Kabila Museveni titre l'avenir du courant ougandais pour la RDC. Désormais poursuit ce journal, les villes congolaises de Beni, Butembo, Lubero et Arou bénéficieront de l'électricité produite dans la ville ougandaise de KCC. Bonsoir.
Merci beaucoup, Kéline Kouté. Désolé, parce que nous aurions bien voulu une revue de presse nationale. Malheureusement, nous ne recevons presque pas de journaux de l'intérieur du pays. Et s'il paraît, c'est parfois une fois le mois, alors que pour notre revue de presse hebdomadaire, nous avons besoin de journaux paraissant au moins une fois par semaine. Bonsoir, Marcel Ngoï.
Bonsoir.
Vous êtes l'éditeur du quotidien La Prospérité, paraissant ici à Kinshasa. C'est la question que je pose toujours au début de cette émission. Y a-t-il une actualité importante de cette semaine que nous n'avons peut-être pas mentionnée dans cette tribune de la presse?
Oui, il y en a. Vous savez qu'il y a une actualité brûlante au niveau du bureau de l'Assemblée nationale où il y a un séisme qui est dirigé pratiquement contre tous les membres du bureau. Il y a une dernière rencontre que le président Kabila a eue rencontre qualifiée de dernière chance avec le président de l'Assemblée nationale à Béni. Je pensais que c'était un sujet qui pouvait retenir l'attention du public tout au long de cette émission.
Mais pour le moment, rien n'a filtré de cette rencontre.
Rien n'a filtré de cette rencontre, mais d'aucuns parlent d'une tentative de décrispation, d'une solution pour décrisper la situation politique. Et on parle même de la demande de pardon qui serait venue de la part du président de l'Assemblée nationale, mais rien officiellement n'a été dit.
Merci, c'est une information à vérifier. Merci beaucoup. Marcel Ngoï, bonsoir. Dieudonné Ngoï Katamba.
Bonsoir.
Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien La Tempête des Tropiques, paraissant également ici à Kinshasa. Je vous pose aussi la même question. Y a-t-il, d'après vous, une autre actualité importante, peut-être que nous aurions pu aborder dans cette tribune de la presse?
Bon, il y a ce que l'éditeur Ngoï qui a dit. Oui, effectivement, c'est le sujet qui, en fait, retient l'actualité. Bon, il y a également des rumeurs de plus en plus accentuées sur à propos d'un éventuel remaniement du gouvernement.
Merci beaucoup, Dieudonné Ngoï Katamba. Jean-Baptiste Badera, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de Radio Maindeleo de Bukavu au Sud Kivu et correspondant de la radio-télévision Digital Congo à Bukavu, et vous intervenez au téléphone depuis cette ville. Je vous repose la même question. Y a-t-il peut-être dans votre province une actualité importante qu'on aurait pu aborder dans cette émission?
Oh oui, bon, par rapport à cette question, je crois que je vais m'éranger. Mes deux conseils, Ngoï et Mboui, parce que le docteur pensait que et l'actualité a rapport avec la crise qui sévit aujourd'hui à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, qui veut également prendre une place, je crois, dans cette émission. Parce que, comme vous le savez, en tout cas, il y a pas mal de commentaires en rapport avec cette question.
Surtout que Vital Tamer a été un élu de votre province.
Récupérer davantage l'opinion par rapport à ça.
Surtout que Vital Tamer est un élu de votre province, principalement de la ville de Bukavu, si je ne me trompe pas.
Oh, justement, c'est le meilleur élu de la ville de Bukavu. Il a été élu, en tout cas, ici avec brio. Et Bukavu, il compte pas mal de sympathisants et pas mal de fanatiques. Et c'est ici même que se trouve sa famille, vous voyez. Donc, ça a été référé encore davantage. Parce que Bukavu, la majorité pense qu'il serait bien que, en tout cas, ça mérite. Et puisse garder les mêmes relations, les bonnes relations qu'il avait eues par le passé avec le chef de l'État, parce que quand on le voit venir ici, c'était la grande joie. En fait, c'était un duo.
Merci.
Après, chaque fois qu'il venait, c'était toute la population qui était en arrière pour les applaudir, pour les accueillir.
Merci beaucoup. Mais ce n'est pas le thème de ce soir. Passons maintenant à notre premier thème. La Cour pénale internationale a décidé mardi d'ajourner l'audience de confirmation des charges dans l'affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. Raison, les juges de la chambre préliminaire 3 demandent au procureur de revoir le mode de responsabilité de Jean-Pierre Bemba dans les charges prévues contre lui. Pour cela, le procureur a jusqu'au 30 mars prochain pour présenter un état amendé de ses charges. Notre consoeur Noëlla Luzito Kabambi nous en parle.
En reportant la décision finale de confirmation des charges retenues contre Jean-Pierre Bemba, les juges de la CPI veulent avant tout avoir du procureur un document dans lequel il est indiqué que Jean-Pierre Bemba est responsable des crimes en tant que supérieur hiérarchique ou en tant que chef militaire de ses troupes. Pascal Turlan, conseiller en coopération internationale du bureau du procureur de la CPI.
Et avant de confirmer les éléments de preuve proposés par le procureur, la Cour lui a demandé de regarder s'il ne pouvait pas renvoyer un document indiquant que M. Jean-Pierre Bemba est responsable en tant que supérieur hiérarchique ou chef militaire des crimes commis par ses troupes.
De son côté, le MLC dénonce ce qu'il qualifie d'acharnement du procureur de la CPI contre Jean-Pierre Bemba. François Mwamba, secrétaire général du MLC.
La Cour n'a pas pu établir la responsabilité personnelle du sénateur Jean-Pierre Bemba dans les crimes contre l'humanité et les crimes de l'OGM, commis à l'RCA, en toute logique. Lorsque les charges d'actualité ne sont pas confirmées à l'encontre d'un peuple, celui-ci doit être libéré. Le procureur Bordeaux obtient, par contre, de revenir à la charge avec des prétendus nouveaux éléments.
ce qui implique, selon la communication faite à la presse ce jeudi par le secrétaire général du MLC, que le sénateur Jean-Pierre Bemba devra encore rester en prison jusqu'au 24 juin prochain, date limite à laquelle les juges auront à nouveau à se prononcer sur de nouveaux éléments pouvant justifier l'organisation d'un procès.
Merci beaucoup Noéla, Louvito, Marcel Longoï, vous êtes éditeur du quotidien La Prospérité par essence ici à Kinshasa. Quelle lecture ce journal a-t-il fait de ce énième report de l'audience de confirmation des charges contre Jean-Pierre Bemba?
Oui, c'est une lecture positive dans la mesure où le juge de la CPI qui ont pu faire le travail en âme et conscience ne sont pas parvenus à établir la responsabilité personnelle de Jean-Pierre Bemba dans les faits qui lui sont reprochés. Je considère pour ma part que cette indépendance manifeste dans l'exercice du travail de ces juges doit se poursuivre. Parce que ce que le MLC considère comme un acharnement de la part du procureur ne peut résister à la critique que si le procureur amenait effectivement des preuves qui démontreraient que Jean-Pierre Bemba avait une responsabilité directe et personnelle dans ce qui était arrivé en Centrafrique. Je note par ailleurs que le temps finira un jour par donner raison à ceux qui ont dit que, quelque part, le procureur a usé d'une précipitation immodérée dans la procédure qui a été adoptée pour pouvoir procéder à l'arrestation de Jean-Pierre Bemba au mois de mai 2008.
Merci beaucoup, Marcel Ngoy. Je reviens maintenant à vous, Dieudonné Moïta Tanda. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du quotidien La Tempête des Tropiques, paraissant ici à Kinshasa. Est-ce que votre journal a fait également la même lecture que La Prospérité?
Bon, à la tempête des tropiques, nous avons accueilli ce rapport comme étant un signe, une confirmation du fait que le procureur Moreno avait en fait agi dans la précipitation. Et maintenant, les juges ayant certainement constaté qu'il y avait des lacunes dans l'accusation, ont demandé à ce qu'ils puissent étoffer l'accusation pour pouvoir éventuellement continuer la procédure. Mais il est regrettable qu'un procureur d'une cour pénale internationale qui a eu tout le temps pour agir, pour réunir les éléments, n'ait pas pensé à d'autres, ait présenté un dossier incomplet. Donc, je comprends pourquoi le MLC a accueilli avec soulagement ce report. C'est d'ailleurs pourquoi, dans le cadre du MLC, on semble déjà dire que ça, on pousse un ouf de soulagement et on réclame carrément la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba.
Merci beaucoup, Dieudonné Mbouïka Tamba. Juste pour vous compléter, j'ai parlé hier avec un confrère qui est à Guémena. Il m'a même dit que, je crois avant-hier, la ville de Guémena était un tout petit peu en ébullition, en disant que c'était quand même une victoire de leur leader. Voilà, donc nous allons nous rendre maintenant à Bukavu, d'où intervient Jean-Baptiste Badera. Est-ce que vous partagez également la même lecture que nos confrères qui sont ici au studio?
Oui, effectivement, Claude, je partage presque le même point de vue, parce que comme vous le comprenez, la Cour pénale internationale n'a pas pu établir les responsabilités personnelles jusqu'à là, parce que pour la Cour, il faudrait donc que Jean-Pierre Bemba, que la Cour n'a pas établi les responsabilités personnelles du sénateur Jean-Pierre Bemba dans les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre commis à RTA. Alors là, il faudra donc que le procureur puisse disqualifier les faits pour les retenir les cas échéants sur la responsabilité en tant que chef militaire. Donc, du côté du MLC, comme l'a dit François Mamba, ça ne peut être un soulagement, et c'est le même point de vue de beaucoup de membres du MLC que j'ai croisé ce matin dans les rues de Bukavu. Ils estiment qu'en toute logique, lorsque les faits allégués ne sont pas confirmés à l'encontre d'un prévenu, il décide à être libéré. Alors là, il faut peut-être que le procureur Morello obtient d'autres charges, hein, avec de nouveaux éléments. Bon, malheureusement, Jean-Pierre Bemba, qui va encore rester en prison, probablement jusqu'au mois de juin.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Badera. Je reviens à vous, Marcel Ngoy. Finalement, les juges ont demandé au procureur d'explorer le fait des charges contre Jean-Pierre Bemba en tant que chef militaire ou supérieur hiérarchique de ses troupes. Est-ce que c'est une victoire, une demi-victoire peut-être pour les avocats de Jean-Pierre Bemba? Peut-être qu'ils s'attendaient à ce qu'on puisse charger leur clients comme étant le commanditaire des exactions qui ont eu lieu en République centrafricaine.
Oui, là, si vous parlez de victoire, moi, je ne pense pas que ce soit une victoire lorsque vous prenez...
Une demi-victoire, peut-être psychologique, hein, oui, par rapport au procureur Moreno.
Est-ce que vous pouvez mesurer l'ampleur du drame lorsque vous avez un procureur d'une si grande cour et qui étudie un phénomène, qui étudie un cas, des crimes, 3 crimes contre l'humanité, 5 crimes de guerre retenus à charge de Jean-Pierre Bemba, pour une intervention réalisée entre 2002 et 2003 en République centrafricaine. Son arrestation intervient en 2008, soit, si vous faites un peu de calcul, entre 5-6 ans après. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Plusieurs mois après que Jean-Pierre ait été arrêté, plusieurs mois après qu'on ait saisi une partie importante de ses biens, meubles et immeubles, et les matériels roulants, plusieurs mois après que sa famille ait subi l'opprobre, aujourd'hui, que le juge, siégeant en compétence générale au niveau de cette cour, puisse contrefaire presque. C'est que le procureur a fait, c'est quand même quelque chose d'important. Moi, je considère que il faut appuyer ces juges pour que la suite de la procédure soit faite en toute indépendance, dans le respect des textes. Que ces juges qui ont établi, qui n'ont pas trouvé quelconque responsabilité personnelle des Jean-Pierre Bemba pour suivre le travail qui ne soit pas manipulé. Moi, je pense que c'est une occasion pour cette cour de pouvoir davantage se crédibiliser si jamais les juges arrivaient effectivement à demeurer dans leur indépendance pour terminer leur travail.
Dieudonné Mbuyi Katamba, comment voyez-vous la suite de ce procès?
Ben je pense que la suite du procès, bon, on va attendre au mois de juin pour voir les éléments que le procureur va pouvoir présenter, qui pourraient éventuellement concerner la responsabilité personnelle du sénateur, du président national du NSC, dans les violences qui ont été commises en Centrafrique. Mais je pense que le MLC a le droit et de se réjouir déjà, et bon, c'est dans son droit, mais je pense que on va laisser au juge, on va laisser au procureur, je voulais dire, de présenter les éléments, quitte à ce que ces éléments-là soient prouvés par la suite.
Voilà. Jean-Baptiste Badère, on va peut-être conclure avec vous, hein, ce premier thème. Est-ce que l'attitude des juges de la Cour pénale internationale prouve quand même une certaine indépendance de cette juridiction internationale que beaucoup récusaient quand même, hein?
Le comportement des juges, hein, trouve quelque part cette indépendance. Mais pourvu que cela dure, hein, on va voir la suite des événements au niveau de la Cour pénale internationale. Parce que là, la balle est maintenant dans les camps du procureur, avec des éléments qu'il va présenter, des éléments qui puissent justement appuyer les accusations contre Jean-Pierre Bemba. Mais alors là, il faudra que la Cour reste, plutôt que les juges restent, avec cette indépendance jusqu'à la fin. Donc, attendons voir, avec espoir que l'indépendance va se réaliser jusqu'à la fin. et attendons les nouveaux éléments que le futur pourra éventuellement présenter.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il est possible aussi que M. Jean-Pierre Bemba soit libéré aussi à l'issue de ce procès, si jamais il avait lieu?
Oui, pourquoi pas, je crois qu'il y a lieu d'espérer, parce que quand vous, par exemple, les arguments qui seront présentés prochainement n'arrivez pas à en convaincre, je crois qu'avec cette indépendance de la Cour, on pense que cela pourrait être le cas.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Badera. Peut-être en 30 secondes, hein, Martin Goyavon,
je voulais dire que le procureur a eu plus de 5-6 ans pour produire 10 000 pages de preuves à charge de Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, on lui donne jusqu'au 30 mars pour qu'il produise, qu'il donne des amendements à ces 10 000 pages. Et il va encore produire combien? Il aura combien de, il aura besoin de combien de temps pour produire d'autres nouvelles pages? Si les 10 000 pages n'ont pas convaincu, et combien les autres pages qu'il va encore amener vont convaincre? Et je pense, pour ma part, que si déjà l'MLC essaie de se réjouir, c'est avec raison. C'est parce qu'en fait, on voit au bout du regard, au bout du compte, que c'est possible que Jean-Pierre Bemba soit relaxé, qu'il reprenne à humer l'air frais de la République démocratique du Congo ou de partout où il peut aller.
En 15 secondes, on a l'impression que vous êtes vous voulez dire que Jean-Pierre Bemba est innocent?
Non, je ne dis pas qu'il est innocent. Je ne dis pas qu'il est coupable. Mais je dis tout simplement que, à lire les signes de temps, parce que le juge qui a examiné le dossier estime qu'il n'y a pas de responsabilité personnelle. Et c'est vrai, il y a des troupes du MLC qui avaient commis des exactions. Et il y a toute une procédure qui avait été suivie en son temps. Donc ça fait que, quelque part, la responsabilité personnelle n'est pas établie. C'est ce que le juge a dit.
Voilà.
Pour compléter l'éditeur Ngoï.
Dieu de Nimbouillet.
Oui, je voulais dire que même alors, la responsabilité personnelle sera difficile à établir.
Pourquoi?
Parce que les troupes du MLC, quand elles sont allées en Centrafrique, elles sont allées sur invitation d'un président en exercice. Donc,
ce qui n'est toujours pas inculpé. Hein,
voilà, justement, donc, c'est pourquoi nous continuons à dire que le box d'accusé est incomplet au niveau de la Cour. Donc, ce sera très difficile à établir cette responsabilité personnelle.
Merci beaucoup, Dieudonné Mbouika Katamba. Nous allons directement passer à notre second thème, qui est la rencontre Kabila Museveni. Les présidents de la RDC et de l'Ouganda ont signé ce mercredi des accords sécuritaires et économiques au nom de leurs pays respectifs. C'était au cours d'un mini-sommet à la frontière commune, situé entre les cités de Mpondwe en Ouganda et Kasindi en RDC, Kasindi qui se trouve à 80 km à l'est de Beni au Nord Kivu. Des accords qui viennent ainsi matérialiser les conventions signées entre ces deux pays lors du sommet de Ngurdoto en Tanzanie en 2007. L'élimination des groupes armés, la gestion des ressources frontalières en ce qui concerne les minerais sont les grands domaines concernés par la coopération RDC-Ouganda dont ces accords détaillent avec notre reporter qui était présent à cet événement, Sylvestre Kilolo.
Ce mini-sommet intervient après deux jours de séance de travail entre les délégués des deux gouvernements RDC-Ouganda, un mini-sommet qui consacre les décisions issues des travaux des 10 experts de ces deux pays. Selon Séraphin Gouège, ambassadeur itinérant et délégué du chef de l'État dans la région des Grands Lacs, les deux chefs d'État ont confirmé leurs engagements pour la coopération bilatérale qui passe par l'échange des ambassadeurs prévu en fin mars. En outre, l'Ouganda va connecter en courant électrique Kasindi, Beni, Butembo et Lubero. Les deux États vont entreprendre une coopération en matière d'exploitation et d'exploration du pétrole et la gestion des problèmes frontaliers tels que la localité de Rukwanzi qui porte à controverse entre l'Ouganda et la RDC. Il a également été décidé la poursuite de la sécurisation commune en éliminant les groupes armés en vue de procéder au rapatriement des réfugiés congolais vivants en Ouganda. Des commissions viennent d'être mises en place en vue de matérialiser les décisions prises. L'annonce par le chef de l'État du projet sur les raccordements en courant électrique a été accueilli avec satisfaction à Kasindi où depuis le matin, la population était mobilisée en vue de l'accueil du chef de l'État. Bébéni, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Voilà, je reviens à vous, Marcel Ngoï. Comment voyez-vous le développement des relations entre l'Ouganda et la RDC? Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à un réchauffement de ces relations?
Un réchauffement, oui.
Est-ce bien pour les deux pays?
C'est bien pour les deux pays parce que s'il y a eu aujourd'hui la guerre à l'Est, guerre qualifiée de guerre de l'Est, c'est en partie lié à la méfiance qui s'est développée entre les deux pays, entre les différents pays de la région. Il a été ici encouragé que le président de la République, que le gouvernement de la République puisse développer ce qu'on appelle la diplomatie de proximité pour pouvoir établir des relations correctes avec les 9 pays limitrophes. Parce qu'en fait, si nous avons aujourd'hui le cas de l'Ouganda, qui est un cas important, vous savez que nous avons un problème dans le lac Albertine, où de part et d'autre, il y a le problème d'exploitation du pétrole, avec une société comme Toulon qui se trouve à cheval entre les deux pays. Mais nous avons autant d'autres problèmes, la multiplicité des milices et des groupes armés dans l'Ituri. Avec tout ce qui s'est passé, c'est lié particulièrement à la méfiance. Alors, si aujourd'hui les deux gouvernements peuvent se mettre ensemble, voir dans quelle mesure apprécier l'opportunité d'exploiter en commun telle ou telle autre ressource et de l'exploiter à des avantages réciproques. Moi, je crois que ce rapprochement permet de mettre un bémol dans ce qui paraissait jusqu'ici comme étant des relations distancées entre les deux pays.
Voilà. Dieudonné Mbouyi Katamba, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du quotidien La Tempête des Tropiques, par exemple ici à Kinshasa. Et comment voyez-vous également ces relations, ce réchauffement des relations entre les deux pays? Faut-il pour la RDC au nom de ce réchauffement oublier la plainte qu'elle avait déposée contre l'Ouganda?
Je pense que si la RDC a effectivement déposé une plainte, bon, il faut laisser la procédure courir, mais du point de vue économique, le réchauffement de relations entre les deux pays, c'est une chose à encourager. C'est une chose à encourager. Je déplore simplement le fait que la signature de ces accords ait eu lieu à un endroit pratiquement dans un village. Je ne connais pas très bien le coin. Mais je pense que la signature devrait être entourée d'une grande cérémonie parce que c'est quand même des accords importants qui engagent deux États. Et puisqu'il fallait créer une dynamique, hein, je pense que cela devrait se faire, par exemple, à Kampala ou bien à Kinshasa, avec des grandes délégations qui se déplacent. Pourquoi on a voulu faire cela dans un village? Moi, je ne sais pas pourquoi.
Mais c'est une zone neutre, hein. Est-ce que ce n'est pas symbolique parce que le président Kabila est entré en Ouganda et le président Museveni est à son tour également entré en RDC à Kasindi. Et je vous signale aussi qu'il y avait quand même des délégations, hein, de la part des deux pays. Il y avait des ministres comme celui des Affaires étrangères, de la coopération régionale du côté de la RDC, de la défense. Et il y avait aussi une délégation officielle ougandaise.
Oui, mais parce que, puisqu'en fait, on vise aussi on vise un réchauffement de relations, il fallait vraiment qu'on sente que c'était un grand événement, quoi.
Mais parce que vous pensez qu'il y a encore suspicion entre les deux pays, vous auriez voulu que le président Museveni, par exemple, vienne ici à Kinshasa?
Mais il a peur de quoi? Et s'il vient ici à Kinshasa, mais qu'est-ce qu'on va, on va lui faire? Hein, c'est un chef d'État d'un pays qui est un pays voisin et les deux peuples entretiennent des relations. Au niveau de Béni, il y a des échanges commerciaux qui se font. Normalement, je pense que soit il pouvait venir à Kinshasa, soit notre chef de l'État pouvait se déplacer, aller à Kampala avec une délégation et puis les choses pouvaient se passer normalement.
Merci beaucoup, Dieudonné Mbouyi Katamba. Jean-Baptiste Badera, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Radio Maïndé Léo de Bukavu Sud-Kivu et correspondant de la radio-télévision digitale Congo à Bukavu. Et vous intervenez justement au téléphone à partir de Bukavu au Sud-Kivu. Comment voyez-vous le réchauffement des relations entre ces deux pays? Il y a quand même des choses importantes qui ont été conclues, notamment l'électrification de Béni, de Lubero. C'est quand même profitable pour cette population, plus que je sais pas des ce qui a trait vraiment à la politique.
Merci beaucoup. Il faut d'abord qu'on précise que Kasindi se trouve sur le sol congolais, de l'autre côté en Ouganda, c'est Kasese. Et c'est là donc que les deux chefs de l'État se sont rencontrés. Moi, je ne peux que saluer, en tout cas.
Mais la rencontre était sur une zone neutre.
Et Kabuta Museveni pour cette rencontre et pour ce réchauffement des relations entre les deux pays. Parce que, comme vous le savez, surtout nous qui vivons à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes souvent très malheureux quand il y a tout le temps des tensions qui se vivent entre soit la RDC de Rwanda, la RDC de l'Ouganda, ou peut-être encore la RDC et un autre pays. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que c'est vraiment très bien, c'est un acte à saluer. Déjà, parmi les notes qui ont été dites à la rencontre entre les deux chefs de l'État, il y a le fait qu'il y a le courant électrique qui sera bénéfique pour certaines villes de la République démocratique.
Et essayez de parler un peu fort, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas très bien.
Par exemple, Beni Boutembo, le Véro et Aru en province orientale. Quelqu'un a eu la chance ou l'occasion d'arriver à Beni, a constaté que là, le courant électrique faisait défaut. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pendant la campagne électorale, avait même promis de tout faire pour, en tout cas, amener le courant dans la majeure partie, qu'elle soit de la province du Nord, du Sud, du Kivu, mais souvent, il y a des matériels qui font défaut, il y a aussi des fois la situation d'insécurité qu'il y avait dans le Nord, qui ne permettait pas au chef de l'État et au gouvernement central de réussir ce projet. Et voilà que maintenant, les deux pays puissent coopérer pour que, dans les jours à venir, les cités comme Béni, Boutembo, Lubero, Nord, Kivu et Aru en province orientale soient éclairés à partir de l'Ouganda. Je vois que c'est là même le souhait de populations, surtout celles qui vivent à la limite entre les différents pays, parce qu'il n'est pas bien de voir que de l'autre côté on est éclairé et je vous laisse pas éclairé, ce n'est pas bien. En tout cas, pour moi, je ne peux qu'encourager cette initiative et il faut en fait, de même temps encourager le chef de l'État dans les efforts qu'il mène en vue de réchauffer les relations entre les pays voisins de la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup.
En tout cas, ce n'est pas facile, qu'on le veuille ou pas, à Claude, il faut noter que, qu'on le veuille ou pas, l'Ouganda restera en Ouganda, la RDC restera la RDC, on restera voisin, et donc, on est
obligé
de vivre en parfaite harmonie entre avec tous les pays du Congo.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Jean-Baptiste.
Donc, sur le plan interne, on peut se l'appuyer.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Badera. Je vous prierai d'être assez concis parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va conclure ce dossier en accordant 30 secondes à chacun de nos deux confrères qui sont ici au studio. Marcel Ngoï, je rappelle que vous êtes l'éditeur du quotidien La Prospérité par essence ici à Kinshasa. Il semble que les deux présidents n'ont pas parlé du dossier sur le retrait des troupes ougandaises qui opéraient contre les rebelles de la ILRA. Pourquoi ?
Officiellement, on peut dire comme ça qu'il n'y a pas eu une déclaration sanctionnant une certaine évaluation de ces opérations. Toutefois, si nous appuyons sur ce que le ministre de la Communication et des Médias a dit, il y a lieu de croire qu'une évaluation pourrait se faire et pour que à l'avenir qu'il y ait une déclaration officielle.
Hein. Mais le chef de l'État avait promis aux Congolais que les troupes ougandaises et rwandaises devaient quitter la RDC à la fin du mois de février. On est déjà au mois de mars.
Oui, oui. La promesse présidentielle au sujet du retrait des troupes demeure. Mais seulement, il y a un décalage, d'après ce que j'ai cru comprendre, dans le propos tenu par le ministre Nende. Donc, c'est un retrait qui pourrait, semble-t-il, se réaliser à la fin de ces mois. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais j'ai dit tout simplement que c'est un processus. On a fait venir des troupes étrangères sur notre sol, sur le sol congolais. Et il y a un jour, ces troupes partiront après que l'évaluation ait été faite. Le problème pour nous, que ce soit au sujet des troupes ougandaises, que ce soit au sujet des troupes rwandaises, qui, aux dernières nouvelles, se seraient déjà retirées, c'est de savoir conclure les accords. Parce qu'en fait, lorsque le Congo s'approche des autres pays, on a comme l'impression que les intérêts de la République ne sont pas suffisamment bien défendus.
Merci beaucoup, Marcel Ngoï. On va terminer ce dossier avec vous, Dieudonné Mbouy Katamba. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du quotidien La Tempête des Tropiques, par exemple, ici à Kinshasa. Est-ce que ce retrait n'a peut-être pas été discuté parce que la société civile de Dungu, dans la province orientale, on s'en souvient, réclamait que les troupes ougandaises restent encore en RDC pour poursuivre les rebelles ougandais de la LRA qui continuent encore des exactions contre les populations congolaises de la partie nord-est du pays.
Bon, la prolongation de l'opération conjointe, elle ne peut pas surprendre, parce que déjà, le commandant des opérations du côté ougandais avait quelque peu émis des doutes on avait commencé à faire pression pour que les opérations prennent fin à la fin du mois de février. Donc, déjà, on a senti que l'Ouganda résistait. Alors, ça va continuer certainement. Je crois que ça va aller jusqu'à la fin du mois de mars, si on a bien compris ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, M. Mende. Mais dans tout cela, je pense que le succès de l'opération pouvait être plus efficace si du côté on avait activé en même temps le dialogue. Hein, on avait encouragé le dialogue entre Ougandais. Moi, j'ai l'impression que la communauté internationale ne met pas vraiment beaucoup d'accent sur ce point-là. Et cela est également valable pour le Rwanda. Donc, il n'est pas facile de mettre fin à une rébellion qui a commencé il y a 20 ans. C'est pas facile. Et la preuve est là. Deux mois après, on a lancé l'opération le 14 décembre, je crois. Et deux mois après, on n'a toujours pas mis la main sur Joseph Kony. On ne sait pas combien d'éléments de la LRA on a arrêté ou on a tué.
Mais le gouvernement congolais dit qu'ils ont été vraiment réduits jusqu'à leur plus simple expression, de telle sorte qu'il n'y a qu'un petit noyau autour qui résiste encore autour de Kony.
Oui, mais ça, c'est le gouvernement qui l'a dit. Mais entre-temps, on apprend aussi qu'il y a les exactions qui continuent sur la population, de plus en plus d'ailleurs. Donc c'est pour dire qu'il ne suffit pas d'amorcer l'opération militaire, il fallait aussi encourager la réconciliation du peuple ougandais. Voilà.
Apparemment, Kony a refusé à plusieurs reprises de signer l'accord de paix avec le gouvernement ougandais. Disons que tant que l'Ouganda ne retirerait pas sa plainte déposée contre lui à la CPI, il n'arriverait pas à signer Kony.
Oui, mais c'est tel qu'on voulait lui faire signer cela. C'était une sorte de pression qu'on faisait sur lui. Mais si on fait les choses proprement, on se met autour d'une table, comme les Congolais l'ont fait à Saint-Suti. Je pense que les choses pouvaient se passer autrement.
Merci beaucoup, Dieudonné Mbouy Katamba. Nous allons chuter avec notre troisième et dernier thème, qui est la présence signalée depuis une semaine à Sabaina et Kouzi, deux villages du territoire de Mbanza-Ngungu, des militaires angolais. Aux dernières nouvelles, les troupes angolaises qui occupent Sabaina et Kouzi dans la province du Bas-Congo continuent à renforcer leur présence sur place, a indiqué ce vendredi un notable du territoire de Mbanza-Ngungu dans le Bas-Congo. Selon lui, des biens et autres matériels débarquent à tout moment dans ces deux villages. La même source affirme que depuis hier jeudi, les militaires angolais ont autorisé aux habitants de Kouzi et Sabaina de vaquer librement leurs occupations sous la seule condition d'être fouillés à chaque entrée et sortie, tant au service de l'État et les habitants qui ont fui. Ils se trouvent à plus de 30 km de là, au village de Kiandou, Keka et Mbanza-Kouzi. De son côté, l'ONG catholique Caritas Développement de Matadi signale que ces militaires angolais se livreraient à des actes de viol des femmes et des filles. 50 femmes et enfants seraient hospitalisés au centre de santé de Keta, à environ 30 km du village occupé. Marcel Ngoï, on a l'impression que c'est un remake ou un recommencement de ce qui s'est passé à Kaemba avec l'Angola.
Oui, c'est un éternel recommencement. Un éternel recommencement qui repose plutôt la question de la qualité de notre armée, qui repose plutôt la question de la porosité des frontières, de la fragilité des frontières congolaises. comment expliquer que des armées étrangères puissent se permettre un tel luxe sur le sol congolais, venir dans les Bas-Congo, en Banzangongo, occuper des villages, chasser les policiers en faction, pour commettre des actes de vandalisme contre les populations. C'est un non-sens, surtout en ce moment.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Badera. En une minute, parce qu'on n'a plus que trois minutes à peu près, hein, résumez-vous par rapport à cette nouvelle occupation par des troupes congolaises du territoire, d'une partie du territoire congolais. Comment on le perçoit là-bas, Bukavu?
Oui, à Bukavu, en tout cas, c'est avec regret qu'on a accueilli cette nouvelle, parce que c'est tout simplement malheureux. Pendant qu'on est en train de déployer des efforts pour stabiliser l'est du pays, on ne peut pas, en tout cas, apprécier qu'à l'ouest, on puisse avoir des situations comme celle-là. Donc, c'est pas malheureux. On pense que, en tout cas, le gouvernement central devrait s'investir davantage parce qu'il s'agit d'un problème très sérieux au lieu de laisser les autorités du Bas-Congo gérer la question.
Dieudonné Mbuyi Katamba, comment percevez-vous cette situation? Est-ce dû à la faiblesse de l'armée congolaise ou de l'État congolais, comme le disent certains, que l'Angola se comporte aujourd'hui comme ça?
Bon, je pense que c'est la conséquence de la légèreté avec laquelle on a traité les dossiers Kaimba. Alors, les Angolais ont vu que, voyant ce qui s'est passé à Kaimba, sur le dossier Kaimba, bon, ils se disent que la RDC, c'est un pays où ils peuvent venir et sortir quand ils veulent. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que il est temps que le gouvernement comprenne qu'il doit absolument actionner relancer les commissions mixtes. C'est très important, il faut relancer les commissions mixtes pour pouvoir traiter tous les dossiers là concernant le traçage de la frontière.
Bon, merci beaucoup. J'espère qu'on a encore quelques minutes. Oui, on a encore deux minutes. Marcel Ngoyi, est-ce que finalement l'Angola est un faux allié? Parce que l'Angola, en principe, est un allié et qui est venu au secours, notamment du régime de Laurent Désiré Kabila. Est-ce que finalement, par son comportement, l'Angola se révèle comme étant un faux allié de la RDC?
Non, dans la question des relations entre États, il n'y a que les intérêts qui priment. Les alliances, c'est comme en politique, les alliances se font et se défont. Et dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une démarche gouvernementale. On parle même on parle des éléments incontrôlés, de l'armée, ainsi de suite. Mais ça reste à vérifier, il y a des enquêtes à faire. Moi, mon problème, c'est de savoir que autrefois, lorsqu'il fallait s'en prendre aux adeptes de Bundu-Dia Congo, il y a eu une intervention venue du pouvoir central. Pourquoi ne le ferons-t-on pas à Savaïna et dans le village de Kouzou?
Est-ce que l'armée congolaise en restructuration a les moyens, la capacité d'affronter une armée assez aguerrie comme l'armée angolaise?
Mais lorsqu'on a des problèmes importants comme celui de la formation d'une armée restructurée, intégrée, les problèmes importants comme le problème de la réunification du pays, pourquoi on doit abandonner ce type de problème pour aller créer aujourd'hui des crises institutionnelles pour lesquelles on ne peut pas avoir suffisamment de moyens pour y faire face?
Peut-être un petit dernier mot, Jean-Baptiste Badera, en 15 secondes. Hein?
Oui, justement, peut-être que compte tenu du fait qu'il s'est avéré que elle n'a pas suffisamment d'arguments pour arriver à sécuriser toutes les populations de la RDC, je crois qu'il fallait beaucoup plus agir sur la diplomatie pour éviter ce genre de situation.
Merci, c'est par vos propos que nous mettons un terme à cette émission. Merci à nos confrères Marcel Ngoy du journal La Prospérité, Dieudonné Mbuyi Katamba de La Tempête des Tropiques et Jean-Baptiste Badera de Radio Mindeléo de Bukavu. La réalisation était assurée par Jean-Claude Tumbakamanga, la technique par Héritier Sidiakala. Merci à toute l'équipe de Dialogue en Congolais qui vous l'a préparé, Kéline Kouté, Guy Maté et Magali Chabalé-Banza, sous la coordination de Martin Sebou-Jangoué. Bon week-end à tous et très bonne suite de programme sur Radio Capi. Thank you.
Thank you.